Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de Parlons Terroir avec Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Damien, ça va ?
Ça va bien et toi ?
Bah écoute, on attend le froid parce que là, ça commence.
Oui, c'est la douceur qu'il y a en ce moment.
La douceur, moi j'étais à Paris ce week-end, vraiment pas de froid. Il s'en irait tant quand le froid arrive parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Bon, aujourd'hui, une émission spéciale sur la mutualité sociale à l'école. Et oui, en ce moment, ont lieu les élections des délégués de la mutualité sociale à l'école. Aussi, je reçois Alain Duc, président de la MSA Gironde, Nicolas Morin, directeur adjoint de la MSA Gironde, et également Sylvie Motte, délégué cantonal. Aujourd'hui, on va parler de la MSA, c'est quoi, son organisation, ses enjeux, et puis les élections. Alors, tout de suite... la MSA, je vais me tourner vers Nicolas Morin. La MSA, c'est quoi juste ?
Alors la MSA, c'est quoi ? Si on interroge le terrain, on nous dira bon, la MSA, c'est les cotisations.
Ah, les cotisations. Depuis 1992-1994, elles ont tellement augmenté. Avant, c'était un forfait. Et depuis, ça a changé complètement la donne.
Il y en a d'autres qui disent la MSA, c'est la mutualité, donc c'est une mutuelle. On voit bien qu'il y a un petit flou, mais il y a au moins une chose dont on est sûr, c'est que la MSA, c'est agricole. Donc la MSA, effectivement, c'est la mutualité sociale agricole. C'est en quelque sorte la sécurité sociale du monde agricole. C'est une structure qui a son âge, hein, qui est née en 45, au moment des ordonnances, et qui a permis au monde agricole d'être protégé. Alors c'est quoi le monde agricole ? Parce que ça peut être très vaste. C'est assez simple pour nous. Le monde agricole, ce sont les salariés qui travaillent dans l'agriculture, la viticulture dans le département par exemple.
Et Dieu sait que la Gironde avec la Champagne, ce sont les deux départements qui ont le plus de salariés.
On a presque 80 000 salariés tous les ans à la MSA qui sont déclarés, qui sont majoritairement des saisonniers, mais ça fait du monde.
Oui, ça fait du monde.
Donc les salariés qui forment un collège à la MSA. La deuxième couverture, ce sont la couverture des exploitants agricoles. Ils sont nombreux aussi sur le département.
Ils diminuent malheureusement.
Ils diminuent, mais en Gironde, on a cette chance d'avoir un renouvellement qui ne remplace pas ceux qui s'en vont, mais qui permettent d'avoir quand même une stabilité, voire une légère décroissance.
On parlera des jeunes agriculteurs la prochaine fois.
On a presque 7000 exploitations agricoles sur le département, et bien sûr, elles sont majoritairement viticoles, mais on a aussi le monde de l'élevage, on a quelques arboriculteurs aussi. Des maraîchers, bien sûr, qui sont présents sur le département.
On a une diversité de plus en plus importante, je pense.
Est-ce qu'on a une diversité ? En tout cas, on a des structures qui disparaissent. Je pense à l'élevage, hein, qui a été longtemps important dans le département. Heureusement, la Bazadaise est toujours présente.
On parlera de la Bazadaise la semaine prochaine.
Et la viticulture qui reste quand même une structure bien présente. Et la forêt, effectivement.
Oui. La moitié du département, c'est la forêt.
Plus grande forêt de France, elle est girondine, elle n'est pas landaise, il faut qu'on le rappelle.
Tout à fait. Donc, y a quand même une diversité. C'est vrai qu'après, sur la surface agricole utile... La proportion de vigne est importante. On a une diversité malgré tout de production. Alors on a d'une part les salariés, d'autre part les exploitants.
Et n'oublions pas les employeurs de main d'œuvre, ceux qui embauchent. Et là il y en a aussi. Il y en a presque un peu plus de 5000, sachant qu'il faut savoir qu'un exploitant peut être à la fois exploitant et en même temps employé de la main-d'œuvre, donc avoir les deux statuts. Mais voilà, c'est trois populations, salariés, exploitants et employeurs de main-d'œuvre, c'est la population qui est couverte par la MSA. Alors, n'oublions pas, il y a eux, mais il y a tout ce qu'on appelle les ayants droit, les femmes, les enfants de ces personnes-là, ou les maris, qui sont bien sûr couverts. Et au total, on a plus de 100 000 personnes qui sont couvertes en santé. N'oublions pas aussi nos amis les retraités. Presque 80 000 personnes de retraités.
C'est d'ailleurs là, entre la part des actifs pour retraités, c'est ce que, on dit, on parle beaucoup de retraite sur le plan national.
C'est d'actualité,
C'est d'actualité. Mais donc, il y a très longtemps qu'on sait qu'est-ce que c'est entre un actif qui cotise à la MSA et puis les retraités et puis les jeunes qui ne sont pas encore en activité, qui par la suite ne vont plus travailler dans l'agriculture, donc il y a ce qu'on appelle une migration, ils partent sur un autre secteur, ils cotisent à un autre, à une autre caisse, donc l'assez sociale, et de ce côté-là, il y a une perte.
Alors, aussi, sur cet exemple-là, c'est ce que vous dites est très intéressant, c'est que quand on a été en 45, le monde agricole, il était fort, il était riche. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé la MESA à l'époque, parce qu'il était bien représentatif de la population. Et c'était un secteur tellement actif qu'il contribuait largement en termes de cotisation à l'époque, et qu'il renflouait les caisses de tous les organismes de sécurité sociale. Au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est l'inverse. C'est que le monde agricole s'est réduit un petit peu. Donc, le financement de la sécurité sociale par le monde agricole a diminué. Mmh. Et aujourd'hui, c'est très clair. Sur 1 euro de cotisation versée par le monde agricole, nous versons 2,59 euros. Ouais, donc, on voit bien qu'il en manque un petit peu. Et, oui. Et ce qui manque, c'est la compensation aujourd'hui faite par les autres régimes, mais que le monde agricole faisait, lui, au tout début, lorsqu'il a été créé.
Malgré tout, c'est bien géré parce que c'est géré par les agriculteurs, on va en parler tout à l'heure, puisqu'il y a des délégués et que c'est eux qui sont la gouvernance. La gouvernance est gérée par des agriculteurs et non pas des syndicats.
Oui, tout à fait. Alors, gérer, je mettrais guillemets, les élus sont là pour orienter, donner des indications, faire des choix, sachant que la MSA, on oublie aussi, c'est un organisme privé qui est chargé d'une mission de service public, puisque qu'est-ce qu'il fait? Il gère des fonds publics. Oui. Il gère les cotisations qui rentrent et il verse des prestations. Donc à partir du moment où on gère des fonds publics, il y a quand même ce qu'on appelle une tutelle de l'État qui surveille, oui, qui vérifie quand même que ce que l'on fait, on le fait bien, on correct, qu'on ne dépense pas de l'argent inutilement. Et effectivement, en termes de coûts de gestion, on reste un régime qui est largement maîtrisé en termes de coûts de gestion.
C'est ça. Oui.
Mais vous avez raison, nos élus, qu'ils soient employeurs, exploitants, sont au conseil d'administration et décident des orientations majeures pour le régime.
Tout à fait. Alors donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, la MSA. Et en plus, quand on dit mutualité sociale agricole, c'était dans la mouvance au départ des coopératives, du crédit agricole, des Groupama, l'assurance, etc. Tout ce vivier qu'avait créé l'agriculture.
Exactement, les assurances mutuelles au tout début. Ouais, voilà. C'est vrai que quand on remonte à l'histoire, les premières assurances sont agricoles, elles datent de la fin du 19e siècle. Et de là sont nés Groupama, le Crédit Agricole, la MSA, qui formaient à l'époque un bloc de la mutualité agricole.
Oui, tout à fait.
Dont on a encore quelques vestiges aujourd'hui, mais qui malheureusement avec le temps se dispersent un petit peu, les assureurs allant avec les assureurs, les banquiers avec les banquiers. Et la MSA restant dans ce monde de la protection sociale.
Si vous me permettez, on appelait ça la maison du paysan, autrefois, à Bordeaux.
Ah oui,
où il y avait tous les organismes dans le même bâtiment.
Oui, oui, tout à fait.
Depuis, ça a bien évolué.
Et oui, malheureusement. Et alors justement, la MSA, vous êtes quand même dans un... Vous êtes dans un... Le bâtiment appartient à Groupama, non?
Ah non, il appartient à 51% à Groupama, mais à 49% à la MSA.
Ah bon,
c'est bien représentatif de l'alliance et de la proximité qu'il y a eu pendant des années avec les principaux acteurs que sont Groupama, que sont Crédit Agricole. Et même si nos liens se sont distendus, il y a toujours quand même un point commun. Le point commun, c'est le paysan, c'est l'agriculteur pour lequel on travaille.
Et c'est vrai que... dans la mesure où c'est mutuel, au Crédit Agricole, c'est également, on a des représentants, on va retrouver des représentants aussi bien au Crédit Agricole qu'à l'MSA, etc.
Tout à fait, effectivement.
Donc ça, c'est important parce que finalement, c'est le terrain qui parle.
C'est ça.
On va en parler tout à l'heure, mais c'est extrêmement important puisque finalement, c'est une structure qui est nationale, qui est représentée. Alors vous, la Gironde, vous êtes qu'une structure, alors que Lot-et-Garonne et la Dordogne, ils sont regroupés déjà.
C'est le fruit de l'histoire, c'est que je reviens dans les années 45, et bien il y avait une MSA par département. Et puis, le temps a passé, les évolutions dans certains départements ont conduit à une diminution des exploitants, une diminution des salariés. La Gironde a cette chance d'avoir gardé son caractère agricole. 10% de la population du département dépend du régime agricole.
C'est énorme.
Pourquoi ? Parce que la viticulture, excusez-moi d'insister sur ce secteur d'activité, c'est un secteur qui est présent dans le département et qui a permis, à, notamment en termes de MSA, à la Gironde de conserver sa MSA. Vous avez dit raison de parler de nos voisins. Dordogne et Lot-et-Garonne ont fusionné et ont conduit à avoir une MSA pour deux départements, pareil pour les Landes et pour les Pyrénées-Atlantiques.
Oui, tout à fait.
Mais vous avez raison de décrire la MSA, c'est finalement au départ, c'était une structure nationale et des MSA par département.
Et alors, l'avantage, peut-être c'est une chose aussi, c'est que vous avez un département qui est grand, qui est immense, la Gironde.
Le plus grand département de France.
Voilà. Et donc, de ce côté-là, avec peut-être des... Parce qu'on parle de Bordeaux, mais vous avez des structures qui sont délocalisées.
Alors, effectivement, le siège est à Bordeaux. Mais pour conserver cette présence sur le territoire qui est important pour nous, MSA, et nous avons quatre agences réparties sur l'Espard, sur Blaye, sur Langon et sur Libourne. Mmh. Et puis, nous sommes présents dans des petites communes locales où nos collaboratrices de l'action sanitaire et sociale, nos médecins du travail, peuvent avoir des permanences pour être au plus près du terrain.
Donc, on a parlé un petit peu des origines. Donc, ça, c'est finalement, au fur et à mesure, vous êtes quand même gardé le côté santé. Alors, les missions de la MSA, c'est quoi ?
Alors, les missions, moi, je vais comparer avec une personne qui travaille dans l'industrie, par exemple. Eh bien, une personne de l'industrie, pour ses prestations familiales, elle va à la CAF.
Caisse d'allocation familiale.
Voilà. Pour sa santé, elle va à la caisse primaire d'assurance maladie.
CPM.
Pour sa retraite, elle va à la CARSAT, la caisse, je ne sais plus, en retraite. Oui, ouais. Pour ses cotisations, elle va à l'URSSAF. Eh bien, la MSA, elle fait tout ça.
Guichet unique.
Guichet unique. C'est-à-dire qu'elle va accompagner le salarié ou le futur salarié agricole de la naissance jusqu'à sa retraite et jusqu'à sa mort. Mmh. C'est-à-dire que la personne vient à la MSA, on gère tout. Mmh. C'est tout bête, mais c'est quand même une simplicité pour lui. Mmh. Il n'a pas envoyé un relevé d'identité bancaire à la CPM, à la CAF. Nous, voilà, on a le guichet de monsieur. Et monsieur, une fois qu'il arrive chez nous, eh bien, on peut s'occuper de sa famille, de sa santé. Mmh. D'autant plus que toutes ces réglementations santé, famille, retraite, elles sont toutes intimement liées. Mmh. Quand vous prenez une décision sur votre, qui impacte vos prestations familiales, ça impacte aussi votre retraite. Et le fait d'avoir ce guichet unique, qui est vraiment l'atout majeur de la MSA, eh bien, c'est un service pour l'adhérent. Et puis, au final, c'est aussi une amélioration de notre coût de gestion, puisque, voilà, en termes de rentabilité, nous consommons moins, ou en tout cas, nous utilisons au mieux les fonds publics.
C'est ça. Donc, ça, c'est très important. Le fait d'avoir un guichet unique, ça permet finalement déjà de savoir qu'il n'y a qu'un interlocuteur, et non pas quatre ou cinq. Et puis, en même temps, on a, finalement, on a déjà fait des économies à ce niveau-là, parce qu'à ce moment-là, il y en a moins de structures.
Et vous savez que ça nous a amené à développer depuis 2015, maintenant, ce qu'on appelle les rendez-vous prestations. Mmh. C'est qu'on se rend compte que, eh bien, on a des adhérents qui n'utilisent pas tous leurs droits.
Oui.
Or, notre finalité, c'est aussi de faire en sorte que chacun puisse bénéficier de ce à quoi il a droit. Ce qui fait que depuis 2015, on a développé des rendez-vous prestations. On propose à nos adhérents de les rencontrer et de passer en revue tout ce qu'ils sont. Ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants, pour essayer de voir effectivement s'ils bénéficient de tous ces droits. Et pour certaines populations qui sont un peu loin de toute la partie administrative, de la paperasse, c'est un gain.
Et on n'aime pas la paperasse.
On n'aime pas la paperasse.
Le monde agricole, peut-être pas les autres, mais le monde agricole, il n'aime pas trop. Alors surtout qu'il est chargé avec la PAC, etc. Bonjour.
Et pourtant, on nous a dit qu'on allait simplifier.
Oui, alors quand on dit simplifier, on passe par les aspects administratifs. Les aspects, finalement, tout est passé par Internet, on en reparlera tout à l'heure, mais après, il faut encore utiliser, savoir, parce qu'on est quand même dans une fracture numérique où beaucoup de gens, même des jeunes, on parlait dernièrement pour les bourses, etc., même les jeunes, ils savent servir d'un ordinateur, mais surtout pour envoyer sur Facebook, mais de là à monter un dossier, déjà, c'est un raisonnement informatique des informaticiens qui ont déjà prévu, il faut mettre les bonnes cases, etc. Et c'est le problème, ce qu'on appelle une fracture numérique, on y est en plein dedans.
Alors, nous, on voit le numérique comme un atout, en ce sens qu'on a quand même une population qui sait utiliser Internet. Donc cette population, si pour nous joindre ou pour nous envoyer des dossiers, elle peut plutôt utiliser Internet, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça permet de libérer nos collaborateurs de l'accueil pour justement ces populations qui ont plus de mal, plus de difficultés. Et effectivement, la MSA promeut les services dématérialisés. Elle invite chacun à aller sur son site sécurisé. D'ailleurs, pour le vote, c'est aussi une consigne. Pourquoi ? Parce que voilà, nos collaborateurs qui sont sur le terrain ou qui sont à l'accueil vont avoir du temps à passer avec les adhérents sur le terrain, voire aller les voir chez eux pour les accompagner. Donc cette fracture numérique, l'Internet a un intérêt pour nous, c'est que on va concentrer tous nos moyens physiques sur ceux qui ont des difficultés en les accompagnant au mieux.
Ça, c'est important parce qu'on est quand même dans cet aspect-là où on sent bien que quand vous parliez de gens qui ne connaissent pas toutes leurs prestations, on a vu le problème des gilets jaunes déjà l'année dernière. On s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas qu'ils avaient des droits, des aides, et parce qu'ils ne savaient pas les remplir. Ouais.
Voilà. Alors, si vous permettez, il y a un autre problème également, c'est qu'aujourd'hui, Internet ne passe pas partout et la ruralité est pénalisée dans ce domaine. Donc, c'est bien de dématérialiser, d'améliorer les services auprès de la MSA. Je reconnais la simplicité, M. Morin le vante assez souvent. Mais de l'autre côté, lorsque vous voulez avoir votre ordinateur attraper Internet, ce n'est pas possible. Alors, le soir, c'est impossible, et l'agriculteur, il travaille la journée. Donc, il se met le soir sur Internet, il n'y a pas moyen.
Donc, parce que le jeune à côté, il regarde un film et il a bouffé toute la... C'est ça, le problème.
Il y a ça aussi, et puis on a des petits débits, voire des débits dérisoires, voire des zones blanches encore. Donc, il faut le savoir. Alors, aujourd'hui, dématérialiser, oui, Mais la fibre, j'ai vu qu'elle arrivait, mais dans 4-5 ans, peut-être elle sera partout. Pour l'instant, c'est pas ça.
Oui.
Alors ça, et l'avantage de nos... Pardonnez-moi, monsieur Morin, mais vous avez la parole depuis tout à l'heure, donc faut bien que je parle aussi.
Oui, bien sûr. Alors c'est le président qui parle.
Oui, d'ailleurs, je voulais vous remercier pour nous accueillir dans vos studios, d'une part, et d'autre part, pour parler de la MSA, parce que c'est bien, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais qui agissent peu. Donc je vous remercie pour, dans ce domaine.
Oui, parce que souvent, on parle que de cotisations.
Oui, c'est ça. On est les percepteurs. On est vu comme ça un peu par les percepteurs mais de cotisations, mais on ignore également tous les services sociaux que l'on peut donner par la suite et les services qu'on peut rendre. Ça, on oublie aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique actuelle, il faut chercher un bouc émissaire et la MSA doit se trouver.
Mais surtout qu'en plus que le monde viticole souffre depuis deux ans. On en reparlera prochainement, on va faire une émission là-dessus sur la campagne viticole. Chaque année, on fait une analyse à ce niveau-là, mais enfin, les cours sont quand même très très durs.
Oui, mais c'est un échec, c'est un résultat, c'est un constat d'échec. Je suis désolé, on peut parler 5 minutes de ça, mais c'est un constat d'échec. Je ne vais pas me faire les copains en disant ça, mais je suis désolé, depuis 20 ans, on n'a rien fait pour améliorer nos marchés. Je vais parler de chiffres parce que les chiffres sont têtus.
C'est le CIBB, là.
Je ne vise personne.
Non, non.
C'est un échec de la communication, c'est un échec de notre commercialisation. Dans les années 2000, où la Chine, on parle souvent de la Chine aujourd'hui, qui a un peu fermé ses frontières, et la Chine s'est ouverte dans les années 95-2000. Et là... La politique des responsables de l'époque disait il faut planter de la vigne, il faut planter à tout va, il faut mettre des rendements, puisqu'à cette époque-là, on faisait 64 hectares sur 10 ans, c'est une moyenne. Et on allait jusqu'à dire, parce que le narcissisme en était là, on disait celui qui veut du Bordeaux, il n'a que venir dans nos chaînes, nous acheter du Bordeaux.
C'est pas un problème, le Bordeaux, ça se vend partout, c'est connu dans le monde entier, c'est pas un problème.
Oui, ça c'était une erreur, mais c'était 2000. Ouais. À partir de 2000, on a commencé à perdre les parts de marché. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à cette époque-là, les acheteurs se sont détournés de Bordeaux pour mettre les vins du Nouveau Monde à la mode.
Tout à fait.
Et pendant 5 ans, on a vu nos marchés décroître et on n'a rien fait. Et au bout de 2005-2006, on a dit on va augmenter nos cotisations pour améliorer notre communication. Ça n'a pas donné de résultat. En 2010, on a fait un plan Bordeaux. Parce que je suis désolé de faire l'ancêtre un peu, mais voilà, depuis 20 ans, ce qui s'est passé. Ce plan Bordeaux, il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Il a fallu attendre 2013, la coulure et la grêle, qui a diminué de 2 millions d'hectos pour relancer le marché. Ouais. Parce qu'en fait, on a produit 2 millions et demi de moins.
Oui.
En 2000 et avant, on produisait 6 millions et demi d'hectos.
Surtout qu'ici, on est entre deux mers, donc c'est les mers de vignes.
C'est ça. Et depuis... On a eu l'impression que le marché repartait avec la coulure le gel de 2017, où effectivement, tout d'un coup, on a vu les marchés s'affoler. Mais c'est une écran de fumée, c'était pas ça. Le problème, c'est qu'on a perdu les marchés et rien n'a été fait pour les récupérer. Je suis désolé, c'est un constat. Et ce constat, c'est un constat d'échec. Alors, les mesures, je ne sais pas si elles seront, les mesures qui seront prises seront efficaces. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc... j'ai peur que cette crise dure 10 ans, moi.
Ça va être dur, là.
Ah oui, parce qu'il va y avoir du monde au bord de la route.
Oui, parce que dans le Midi, ils ont su se débrouiller, quand même.
Oui, mais dans le Midi, est-ce qu'ils ont 55 appellations comme chez nous?
Ah oui, là.
Voilà. Alors, je ne veux pas aller plus loin dans ce débat, parce que ça pourrait avoir des répercussions désastreuses. Je vais arrêter là mon explication.
Non, mais bon, il se trouve que la Chine s'est refermée, les États-Unis aussi, alors que c'était quand même les deux principaux...
Oui, la Chine a diminué, mais il ne fallait pas axer tout sur la Chine, comme certains ont fait. Il ne fallait pas non plus voir que les États-Unis... L'année dernière, il n'y avait pas la taxe de 25% et on ne vendait pas non plus. Donc, ce n'est pas forcément un argument à mettre en avant. Aujourd'hui, là aussi, je ne vais pas me faire des copains, mais et quand on met uniquement le problème de 25% de taxes supplémentaires en Amérique... C'est pas ce qui a bloqué le marché l'année dernière, ça n'existait pas. Alors le Brexit, c'est vrai, ça existait. Alors ça pénalise pas mal aussi, mais en fait, voilà, c'est un tout. Il n'y a pas que ces trois marchés qui existent dans le monde.
Alors que les Espagnols, les Italiens, ça sortent mieux, là.
Il n'y a pas que, il y a les appellations françaises qui s'en sortent.
Oui, tout à fait. Bon, on va revenir à la MSA.
Oui, revenons.
Oui, la MSA,
on va peut-être faire une pause musicale, allez.
Je vois des milliers de fleurs lancé dans le cœur des gens, je vois ton âme et ton cœur dessiné au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles. Simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, des poèmes comme l'on sème de l'amour, des je t'aime, des ritournelles pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil.
De retour sur Radio Entremers dans l'émission Parlons Terroir spéciale MSA ce soir.
Et oui, alors on était sur la MSA, on parlait du vin et avec les problèmes qui en découlent, c'est le cas de dire, alors que la MSA a des possibilités d'aide.
Oui, et notamment lorsqu'une on rencontre une situation comme en 2013 avec la grêle ou en 2017 avec le gel, le premier message, le premier conseil que l'on donne aux employeurs, aux exploitants, c'est ne restez pas seul, contactez la MSA. On sait très clairement que des événements comme cela créent des difficultés pour l'entreprise, pour l'exploitation. Et la pire des situations, c'est de rester seul et de ne pas communiquer avec la MSA. La MSA, elle peut accompagner, bien sûr. La MSA, on l'a dit, elle verse des prestations, elle prélève des cotisations. Oui. Mais elle les prélève de manière intelligente, excusez-moi de le dire, j'insiste là-dessus. C'est que la première démarche, c'est de pouvoir échanger avec l'intéressé pour voir avec l'employeur. Ben déjà, est-ce qu'il peut pas? Est-ce qu'on peut établir avec lui un plan de paiement, un étalement? C'est la première démarche. Ensuite, c'est peut-être avec, voir avec lui si ben, les cotisations sont vraiment dues, puisque les cotisations sont fondées sur les recettes qu'il a, lui. Si ses recettes diminuent, eh bien, on peut voir si le calcul peut aller à la baisse. Et puis, chaque année, nous avons des aides de l'État, cette année, presque, sur 2019, presque plus de 2 millions d'euros, qui nous permettent d'aider certaines filières, avec des sommes qui ne sont pas neutres, hein, puisque les dossiers qui passent en MSA qui sont examinés amènent parfois à des versements de l'ordre de 2 500 à 3 000 euros par exploitant, qui leur permettent momentanément, vous voyez, une prise en charge de cotisation. Donc c'est des éléments importants. Le deuxième point qui revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les prestations. La MSA, elle verse des prestations. Eh bien, on constate que notamment des exploitants ne vont pas demander à la MSA des prestations. Je vais prendre l'exemple du RSA.
On n'aime pas faire la monde, hein.
Le
revenu la campagne, c'est ça.
Non, mais si vous voulez, excusez-moi de vous couper, monsieur Morin, mais l'agriculteur a une mentalité à part. Il est pudique et il ne parle pas de sa situation parce qu'il a honte.
Oui.
Donc ça reste secret, ça reste fermé. Et aller faire une démarche pour se plaindre, ce n'est pas du tout dans la mentalité des agriculteurs. Et ça, on voit ça qu'en agriculture. Hein.
On ne parle que, on se plaint que du cours du vin ou de la météo.
Oui, voilà. Ce qui est globalement, qui touche tout le monde.
Voilà, mais par contre...
Pas sa situation personnelle.
Ouais. Ouais, non.
Et lorsqu'il y a eu la grippe aviaire qui a touché surtout les Landes, où je me souviens qu'on avait des entreprises au sud du département hein, qui produisaient du foie gras qui ont été touchées. Et on les a vus tous ensemble, tous les producteurs ensemble, et on a pu monter des dossiers et déclencher des versements de RSA qui n'étaient pas neutres et qui sont toujours... un petit peu de quelque chose qui rentre dans le porte-monnaie de l'exploitant.
Ça, c'est important, le RSA, oui. Parce que là, on croit que c'est réservé qu'à une certaine catégorie professionnelle, c'est pas vrai.
Pas du tout, puis ça leur permet de continuer à vivre. Alors, évidemment, on va pas non plus, ça va pas être la panacée, mais ça a permis de continuer à vivre dignement.
Et le RSA, c'est une prestation qui est théoriquement versée par le conseil départemental, puisque c'est lui qui le finance, c'est nous qui le faisons pour lui, mais sachez que le conseil départemental a vraiment une démarche qui, offensive, qui souhaite que le monde agricole le sollicite et bénéficie des droits, d'où l'importance de ce que j'appelais le rendez-vous prestation, qui même pour un exploitant, vous voyez, nous permet de voir avec lui tout ce à quoi il a droit.
Juste ça, vous donner... ces rendez-vous prestations, ça se fait où ?
À la MSA, on arrive à l'accueil de la MSA, on demande un rendez-vous prestation, donc en général, on prend rendez-vous.
Sur les quatre
agences, au siège, voilà.
Oui, c'est ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas obligatoirement la maison mère à Bordeaux, toutes les agences.
Il ne faut pas prendre tous les embouteillages à Bordeaux.
Non, aller, quoi qu'à Sauveterre, c'est pas mal. Et tout à l'heure, on l'a vu, pour se garer, ça n'a pas été évident.
Ah oui,
c'est presque une ville.
Ah oui, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a.
Je ne sais pas.
Il y a une réunion.
Et vous voyez, au final, ce qui est intéressant, c'est que la MSA, tous les ans, elle réinjecte dans l'économie locale presque 800 millions d'euros de prestations. 800 millions d'euros de prestations, retraite, famille, santé. Vous voyez, c'est pas neutre quand même pour l'économie locale, sachant qu'on en prélève à peu près 250-300 millions d'euros de cotisations, mais il y a quand même presque 800 millions d'euros qui sont réinvestis comme ça chaque année. Dans la vie de nos contemporains, parce que lorsqu'on a une retraite, eh bien effectivement on dépense. Lorsqu'on verse des prestations familiales, c'est notamment pour élever ses enfants, pour faciliter. Donc c'est un vrai poumon et qui a sa place notamment en période de crise, c'est très clair.
Et c'est reversé dans l'économie locale.
Exactement.
Alors on va peut-être parler de finalement l'organisation démocratique, parce que ce qui est important, c'est de savoir que il y a, au niveau de la mutualité sociale école, il y a des délégués, et on va parler peut-être après des élections, mais on va voir peut-être le rôle, justement, de cette organisation démocratique, puisqu'on va voter prochainement, enfin, on est en cours. Alors, c'est quoi on va peut-être voir Sylvie Motte, là. Qui est déléguée cantonale.
Jusqu'à maintenant, bon, on a quand même quelques informations un peu privilégiées, et on essaie d'orienter un peu les adhérents quand ils nous appellent pour essayer de les aider dans leur quand ils posent des questions, essayer de trouver des solutions pour eux. Après, bon, j'ai pas mal participé à un moment donné, on avait fait pas mal de rencontres sur l'aide aux aidants aussi, pour le maintien des personnes à domicile, pour aider les personnes qui ont...
Ça, c'est capital, ça.
C'est très important aussi.
Ouais. Voilà. Parce que là, on a quand même on a une population qui vieillit.
Ouais.
Les mettre en maison de retraite, ça coûte très cher.
Voilà.
Et c'est pas avec les retraites de la MSA qu'on va... Je m'excuse, mais ce qu'on va toucher pour arriver à la maison de retraite. Donc, il y a quelque chose d'important, c'est déjà maintenir, d'une part, à domicile, parce que tant qu'on est chez soi... On a encore la tête dans le guidon, ou du moins aux alentours, on a ses repères. Quand on part à la maison de retraite, ça devient beaucoup plus compliqué.
C'est exact, oui.
Après, ce n'est pas toujours facile, mais bon, on essaie de faire au mieux pour aider les aidants. Et il y a aussi toute la partie sur le répit aussi. Aider les gens qui sont un peu en difficulté, essayer de leur trouver un peu de temps pour eux.
Oui. Parce que les aidants, des fois, ben, ils décèdent avant...
C'est exact. C'est beaucoup plus pénible, quelquefois, que la personne aidée.
Oui. Et ça, c'est dur. Hein. Et ça, je crois que c'est capital, ça.
Voilà.
C'est vrai que l'aide au répit, vous avez raison, c'est déterminant aussi bien pour l'aidant, mais je pense même à l'exploitant. L'exploitant qui est toute la journée en train de bosser. Hein. Pour ceux qui ont vu les films, notamment Petit Paysan, on voit bien, c'est au boulot, du matin au soir, la nuit.
Et quand on a un souci en plus, quand ça marche, que ça va, mais c'est quand il y a un problème. Ouais. Là, lui, c'était une vache qui avait une vache folle, et il essayait de se dépatouiller tout seul. Alors que sa sœur était vétérinaire, elle dit « Mais alors, qu'est-ce que tu fais, là ?» Et puis après, il y a les gendarmes. Enfin bon, il est tout seul. Et dans Au nom de la Terre, là, c'est pareil. On est dans une autre problématique. Enfin, on le voit bien. Hein. Puis il y en a d'autres. Il y a pas mal de films.
Au nom de la Terre, c'est très dur quand même, parce que on s'aperçoit que cette personne, c'est un multifactoriel, en fait, le suicide, qui, ça se termine par un suicide, et c'est multifactoriel, parce que c'est d'une part un problème familial qui vient d'un problème financier, et ça part de là, et ça finit très très mal, comme on l'a vu dans le film, quoi.
Mais le problème, c'est qu'il n'est pas bien assuré, parce qu'on voit que ça a volé deux fois. En plus, ça s'est passé deux fois. Et puis, en plus, pas aidé par... parce que là aussi, s'il y a une transmission entre le père et le fils, hein, si le père, il dit, ça ne sert à rien ce que tu fais, c'est pas la bonne... Enfin, bon, voilà, hein, il n'y a pas aussi...
Mais le relationnel entre les différentes... parents et enfants, c'est toujours compliqué parce que voilà, ça fait partie du monde agricole aussi, ça. Ceci étant, au long de la terre, il y a quand même quelques... Moi, en tant que professionnel, j'ai vu des exagérations tout de même, où l'investissement qui a été fait n'a pas été étudié. Normalement, il y a une étude prévisionnelle qui fait est-ce que c'est viable ou pas. Bon, ça n'a pas été fait. Il y a tout un tas de situations où... Bon, c'est un film, certes.
Mais ça correspond à une réalité, quand même.
Ça correspond à une réalité des années, il y a 20 ans ou 30 ans. Quoi.
Voilà, après, on peut essayer d'aider les gens, mais on n'a pas à rentrer non plus dans leur intimité. Et bon, on a juste besoin, des fois... Ils ont juste, des fois, besoin de parler un peu. Et, et après, si le besoin se fait ressentir, il peut y avoir la médecine du travail, il peut y avoir... On peut, par notre connaissance de la MSA, leur faire rencontrer des personnes ressources qui pourront les aider.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plus d'agriculteurs qui se suicident tous les jours. Donc, ça devient, avec les derniers chiffres même de la MSA, sont...
150 agriculteurs par an, effectivement. Il y a un suivi qui se fait aujourd'hui. Ouais. Peut-être que l'accompagnement que font différents acteurs joue. Hein.
Ouais. Mais, il y en a beaucoup qui sont déclarés en tant qu'accident, donc...
Oui, c'est pour ça, les chiffres sont plus ou moins faussés. Oui,
voilà, c'est ça.
Il faut savoir que dans les suicidés, l'analyse des suicidés, il y a le suicidé, puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de dames dans les suicidés et des salariés aujourd'hui qui se suicident, culpabilisés par l'utilisation de pesticides qui ne supportent plus. La surmédiatisation, voilà où elle nous mène. C'est qu'aujourd'hui, les salariés ne supportent plus d'être montrés du doigt, être accusés d'être...
La ribashing.
Voilà. Ouais, il y a des limites et des respects à avoir quand même, je pense.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut évoquer deux minutes l'accompagnement de la MSA sur
cette
problématique
du suicide ? Oui, tout à fait,
parce
que c'est capital.
Qui a vraiment...
Parce qu'on a fait, justement, moi j'ai un collègue, moi je suis conseiller municipal sur Marmande, et j'en ai un qui fait la marche citoyenne pour justement soulever ces problèmes-là.
Alors, sur la démarche du suicide, vous l'avez évoqué, hein, comment est-ce qu'on peut accompagner l'exploitant ? La première démarche qui est maintenant vieille, puisqu'elle date de 2014, hein, c'est une plateforme téléphonique qui est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permet à l'exploitant ou à la personne en difficulté d'appeler et d'avoir quelqu'un qui l'écoute. Vous l'avez dit, madame, c'est exactement ça, c'est cette notion de pouvoir être écouté et de pouvoir vider son sac.
Et cette plateforme téléphonique, il y a un numéro ?
Il y a un numéro, hein, c'est un numéro un peu compliqué, hein, 09 69 39 29 19.
Ouais, c'est un peu compliqué.
Ouais, 09 69 39 29 19, c'est la plateforme qu'on appelle AgriEcoute. Voilà. Et l'idée, ce sont des professionnels qui sont formés à l'écoute et qui vont avoir cette démarche de recevoir tout ce qui est donné par la personne qui appelle, pour qu'au moins il ait le sentiment d'avoir été entendu, hein, dans cette première démarche. La deuxième démarche, et ça nous permet d'aborder la pluralité des fonctions à la MSA, c'est que nous avons à la MSA des médecins. On oublie de le dire, mais vous l'avez très bien dit, la santé au travail, des médecins au travail, des médecins conseils. Nous avons aussi
prévention.
Prévention, exactement. Prévention. Donc c'est bien les médecins.
Il vaut mieux prévenir que guérir. D'ailleurs.
Exactement, des préventeurs. Nous avons aussi ce qu'on appelle des assistantes sociales. Donc des corps qui, lorsqu'on les réunit tous ensemble, peuvent étudier des cas de figure, à la fois sous l'angle social, sous l'angle médical, sous l'angle prévention, et construire un dispositif pour des personnes qui sont en difficulté. Ce sont ce qu'on appelle des cellules pluridisciplinaires, et là encore, c'est une forme de guichet unique qu'on a, de compétences, et qui nous permet d'étudier des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont des handicaps, des gens qui ont, effectivement, des mal-être, et d'essayer de voir comment on peut les accompagner, soit en les maintenant dans leur emploi, dans leur exploitation, soit en les aidant à converger vers quelque chose de nouveau.
Oui, mais ces personnes-là ne peuvent intervenir que grâce aux délégués. Parce que c'est les délégués qui alertent ce genre de position.
C'est ça, c'est la base.
Et c'est la base, parce que depuis Bordeaux ou depuis Paris, on ne voit pas tout ça. Donc c'est leur rôle, et c'est là où il faut qu'ils interviennent, et ils le font très bien.
Bon, ça ne sera peut-être pas aussi facile sur notre grand canton maintenant.
Si vous abordez ça, alors là, il y a un autre souci. Là.
Bon, on va peut-être faire une pause musicale. Avant de justement de parler un petit peu des avancées sociales, des actions menées par la médecine sociale à l'école, et Dieu sait qu'il y en a, et après on parlera des élections.
Vous êtes toujours dans Parlons Terroir avec Patrick, spécial MSA.
Alors justement, après cette musique dont on va nous éclairer, alors c'était quoi ce qu'on vient d'entendre là? C'était Handel, je crois.
Handel, c'était Philippe Jarowski et Nathalie Schutmann. C'est deux voix qui se réunissent et c'est un peu ce qu'on vit à la MSA entre les employeurs et les salariés, où on travaille ensemble pour le monde agricole. Et lorsqu'on a une voix unique, c'est qu'on a réussi notre objectif.
Ouais. Voilà. Très bien. Alors, on poursuit maintenant avec, justement, on parlait des éléments qui, au niveau de l'élu, des actions et des avancées sociales que la MSA a pu mettre en place grâce notamment, finalement, aux actions des élus.
Alors, les élus, il faut savoir qu'on a un système donc, qui leur permet tous les ans de faire remonter en Assemblée Générale, où tous les élus sont présents en Gironde, là, tout ce qui leur paraît être nécessaire de faire évoluer. Et chaque MSA fait la même chose, ce qui fait que vous avez une structure nationale qui récupère les idées de la Gironde, les idées de la Bretagne, et bien souvent ces idées elles sont convergentes. Et c'est comme ça que notre caisse centrale à Paris, après, fait pression, ou en tout cas essaye de faire pression sur le gouvernement, le ministère, pour faire évoluer la réglementation pour qu'elle soit plus favorable au monde agricole. Et si je prends le dernier mandat là, sur les 5 dernières années, on a plusieurs éléments qui sont importants, hein, qui ont été comme ça décidés au niveau du terrain, du tiroir, hein, madame, et on fait remonter ses souhaits avec d'autres. Eh bien, ce sont les allocations de remplacement pour le congé maternité des agriculteurs et agricultrices, en l'occurrence, elles n'avaient pas d'allocation de remplacement. C'est une vraie nouveauté. Hein. Un salarié qui part en congé maternité, il a bien des allocations. Ben, le monde agricole n'en avait pas pour les exploitants, donc c'est une nouveauté.
Et ce qui s'est passé à cette époque-là, enfin, encore dernièrement, c'est que la personne qui était enceinte continuait à travailler jusqu'à la veille d'accoucher. Ce qui n'était pas normal.
On avait le service remplacement, mais bon, c'est pas...
Hein. Non, c'était pas tout à fait... Pareil.
Ouais, ouais. C'est
une aide, hein. c'est une aide, incontestable. Hein. Oui, oui.
Bien sûr. Dans le même ordre d'idée, puisqu'on parle du remplacement, lorsqu'un exploitant était malade, on n'avait pas de système de remplacement, pas d'allocation. Quand je suis salarié, moi, eh bien, il m'arrive un accident ou un arrêt maladie, j'ai un arrêt maladie et donc je continue d'être payé. Un exploitant, ce n'était pas le cas.
Et non. Et s'il fallait faire venir quelqu'un, il fallait qu'il le paye.
Bien sûr. Donc ça, c'est on part du principe que tant qu'il a la tête, il peut...
Oui, hein, il n'est pas indemnisable.
Il n'est pas indemnisable. Ouais. Là, c'est grave.
Et puis peut-être que derrière tout ça, il y a aussi la force du monde agricole qui, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, continue. C'est aussi ce qui le caractérise. Ce sont des bâtons, des gens qui en veulent, et peut-être que dans l'état d'esprit, même du législateur, je ne sais pas. Mmh. Mais bon, limite, elle est enceinte ou il est malade, mais on sait qu'il va y aller. Je ne sais pas si vous.
Enfin, si, moi, c'est... Si, quand on a un élevage, il faut y être. Si on ne taille pas aujourd'hui, on taillera demain. Ben, en ce moment, ça peut être plus calme. Mais quand il y a le feu, il faut y aller.
Il faut y aller.
Hein.
Et oui. Oui. Ça, c'est clair.
On a quand même la chance d'avoir aussi un service de remplacement qui marche très très bien en Gironde.
Oui, tout à fait.
Ça aide bien.
Vous savez, on ne s'invente pas paysan de toute façon. Non. On l'est, oui. Et c'est viscéral. Oui. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ce n'est pas la peine de venir à la terre.
Ouais. Mais en fait, d'une manière générale, je dirais que tous les métiers, il faut avoir une passion. Si on est passionné...
Oui, plus ou moins.
Oui. Ah, oui, tout à fait.
Si vous prenez le viticulteur qui a eu le gel en 2017, la grêle en 2018, le mildiou en 2019...
Il se relève.
Voilà,
se relève.
Eh bien, il se relève à chaque fois. C'est impressionnant. Enfin, pour nous, administratifs, excusez-moi, je peux le dire, hein, de voir le lendemain du gel de 2017, dès le lendemain, ils repartaient à l'attaque. Ils étaient battants. Pour nous aussi, pour nous administratifs, écoutez, c'est chouette quand même de travailler pour un monde comme ça, où les gens, ils en veulent.
Ils
se battent. Et pour nous aussi, c'est aussi un moteur, on peut dire.
Comme un marin qui se bat.
Exactement.
Pour chercher le poisson.
Ouais.
N'oublions pas aussi, dernière avancée, elle est peut-être anecdotique, mais pour nous elle est importante, c'est que les enfants d'agriculteurs, dès qu'ils avaient 18 ans, eh bien, ils étaient obligés de quitter la MSA pour aller dans le régime des étudiants. Bon. Je ne fais pas de commentaires sur le régime des étudiants, mais en tout cas, beaucoup d'exploitants se sont battus pour que les enfants puissent ensuite conserver et rester dans le monde agricole. Et dans les MSA, c'est ce qui se passe aujourd'hui. À partir de 18 ans, mes enfants peuvent rester dans le monde agricole et couverts par le monde agricole. Donc ce sont des avancées plus ou moins importantes, mais en tout cas qui proviennent de nos élus de terrain, qui font monter leur désir d'État, leurs souhaits, qui les argumentent, et qui, lorsqu'on arrive au national, parfois aboutissent.
C'est ça le bon sens paysan.
C'est tout à fait ça.
On est bien dans ces problématiques-là de voir ce qui pêche et ce qui peut permettre finalement de faire avancer. Alors, comment ça marche? Un élu, il est élu pour combien de temps?
Alors, un élu, est élu pour 5 ans.
5 ans.
Voilà. Et dans les élus, alors vous avez 3 collèges, si on peut parler des collèges.
Oui.
Le collège 1, ce sont les exploitants. Ou anciens exploitants. Le collège 2, c'est tous les salariés.
Alors salariés agricoles.
Tous les salariés agricoles, oui.
Et des organisations professionnelles agricoles aussi.
Aussi. Hein? Oui, oui.
Les ils coopératives.
Ils sont considérés comme salariés agricoles et ils sont adhérents à la MSA.
Tout à fait.
Et ensuite, les exploitants employeurs de main-d'œuvre.
Employeurs de main-d'œuvre.
Voilà. C'est le troisième collège.
Et alors là, quand on dit qu'on est élu cantonal sur un canton, il y en a combien d'élus par canton?
Alors, si vous voulez, là, ça a changé dernièrement, puisque la loi NOTRe de 2015 n'a pas impacté les élections de 2015 dans la MSA, parce qu'elles se sont faites légèrement un mois avant la mise en œuvre de la loi. Donc, on a conservé nos cantons. Dans la Gironde, de 63 cantons, on est tombé à 33 cantons. Il se trouve que le canton Les Coteaux de la Dordogne, dont je suis issu, il faut que je fasse attention parce que j'ai des difficultés à me rappeler comment je m'appelle maintenant, puisque je suis le canton de Brann au départ, qui aujourd'hui est fusionné avec le canton de Castillon et le canton de Pujol.
Voilà, les trois.
Les trois. Donc de 30...
Avec toujours qu'une appellation, là.
Une appellation laquelle?
Non, mais vous parliez tout à l'heure que le Bordeaux... Le
ah Brann... non, là on sort de l'entre-deux-mers, là. On est dans les côtes de Castillon, première côte, et j'en passe. Donc voilà, d'accord. On ne va pas rentrer dans ce débat. Parce...
Oui.
Non, on ne va pas s'en sortir.
Ouais. Donc, il y a eu un regroupement.
Voilà, ce regroupement de cantons, c'est ce qui va pénaliser un peu nos élus, aujourd'hui, nos délégués, parce que la distance qui va séparer le délégué auprès des territoires va être plus difficile à gérer et à comprendre et à se retrouver et à se connaître. Parce que moi, j'étais du canton de Bran, je connaissais à peu près tous les gens qui étaient du canton de Bran. Canton de Castillon, canton de Pujol, ça va être beaucoup plus difficile.
Mmh. Bien sûr.
Et nous, le canton est encore plus grand. Ah bon, entre Sainte-Foy et Auros.
6.
Ah, ben là, vous êtes sur la carrément. Vous êtes sur la communauté des communes du Réolais en Sud-Gironde, c'est ça? De Montségur à Auros.
Oui, non, mais le canton, c'est même pas calqué sur la communauté de communes. C'est encore.
Ah non, ça aurait été trop beau.
C'est encore autre chose.
Ah, c'est autre chose. Bon. Donc,
ce qui veut dire qu'on a, en plus de. On n'a pas. Il est bien connu que les deux rives de la Garonne ne se rencontrent pas toujours facilement.
Non.
Et que les gens d'Auros ne connaissent pas forcément ceux de Sainte-Foy et vice-versa.
Oula, oui.
Et ce n'est pas trop leur lieu de promenade.
Et quoi. Qui c'est qui a planifié ça?
Ah ben c'est le canton qui est comme ça. On ne nous a pas demandé notre avis.
D'accord. Parce que là...
C'est effectivement
le problème, c'est que la MSA, c'est...
Elle
s'est alignée, a suivi, oui. Et puis c'est tout.
C'est surtout qu'elle subit, elle n'a pas le choix.
C'était à l'origine, il fallait qu'il y ait 25 000 électeurs par canton. C'est une loi politique qui a fait que, voilà, je vais faire attention à ce que je vais dire. Donc, pour améliorer la situation des votes, on va dire, on a fait en sorte de regrouper les cantons pour qu'il y ait 25 000 minimum électeurs ou personnes par canton.
Mais pour la MSA, c'est difficile, et même, c'est même dramatique, parce que vous prenez le canton de Le Réolais et les Bastides, donc l'est du département, c'est un canton qui correspond à 5 anciens cantons, et 5 anciens cantons où on avait beaucoup d'élus actifs, très actifs. Donc non seulement, comme vous l'avez dit, il y a une distance, il y aura moins d'élus, puisqu'on va passer, on va réduire de 5 à 1, mais surtout, on a aussi créé beaucoup de déçus, de gens qui ont l'habitude de s'investir, et qui tout d'un coup n'ont plus leur place. Et il nous faut gérer en MSA, c'est un souhait en tout cas qu'a le président du conseil d'administration et tous nos élus, c'est de trouver une place pour ces acteurs qui, de par la loi NOTRe, n'ont plus leur place, mais qui représentent le monde agricole et dont on a besoin.
Si on veut continuer à être près de notre population, le monde rural, le monde du dernier kilomètre, il faut absolument que ces élus, ces anciens élus qui s'investissaient beaucoup, il va falloir leur trouver leur place. On va leur trouver une place de façon qu'ils puissent continuer à être à l'Assemblée générale de notre MSA à Bordeaux et également pouvoir agir sur le terrain. On va leur faire en sorte de leur mettre une situation, une appellation pour qu'ils puissent aussi s'investir comme ils le faisaient avant.
Alors quand on dit un élu cantonal, c'est-à-dire que c'est quand il y a une personne qui a un problème sur un canton, il va voir son délégué. Son délégué.
Il explique.
Ça arrive assez souvent.
Voilà. Ouais. Expliquez, madame.
Ça arrive. Bon, après, ça arrive. Jusqu'à maintenant, ça arrivait parce qu'on se connaissait.
C'est un problème de confiance.
Après, on a essayé quand même d'équilibrer les candidats sur ce grand canton. Donc, je pense que normalement, toutes les personnes auront quand même quelqu'un à proximité.
Voilà. D'accord.
Qui pourront servir de relais.
Oui, c'est un problème de confiance aussi entre personnes.
Oui, c'est ça.
C'est pas facile de faire
parce
confiance.
En général, on a un boulot d'assistance sociale, parce que c'est par rapport à un problème particulier.
Bah, c'est surtout
on ne va pas voir le délégué, parce que tout va bien. C'est en général, c'est
non, mais c'est souvent pour un papier, pour des choses administratives qui se réalisent, qui ne sont pas trop faciles à régler.
D'où l'importance qu'il a dit tout à l'heure d'avoir mis plus proche, finalement, une structure.
Les agences.
Et on a même fait mieux, c'est qu'on a créé une ligne téléphonique spécifique pour nos élus de terrain, pour qu'ils puissent nous joindre à la MSA. Et on a une équipe qui est là pour répondre à leurs questions, souvent prendre les demandes et les transférer dans les services à la MSA pour répondre rapidement à nos élus de terrain pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Parce que c'est bien beau d'accueillir la demande d'un adhérent de terrain, mais il faut pouvoir lui répondre assez rapidement. Et vous avez une ligne téléphonique.
En principe, oui, on a une réponse à pouvoir donner aux gens, quoi. Alors pas forcément toujours celle qu'ils attendent, mais on a une réponse à pouvoir donner.
Si vous voulez aborder un sujet qui est d'actualité, qui plaît à en parler, c'est le fait de ne pas pouvoir obtenir la MSA quand on veut.
Ça, c'est vrai, ça.
Voilà. Non, mais je ne vous voulais pas dire. Non, mais
j'allais vous le dire.
Je préfère aborder la question, parce que comme ça, on va la liquider. Il faut savoir qu'on a 1000 appels par jour. Et dans les 1000 appels, alors c'est l'avantage ou l'inconvénient d'avoir un portable. C'est que quand on a un souci, avec le portable, on appelle à n'importe quelle heure de la journée pour connaître le résultat au niveau de la MSA. Alors que si on va sur Internet, on a la réponse. Dans notre site Internet...
Pas toujours,
me dites. Non, voilà. Le débat.
Déjà, il faut mettre...
Il faut déjà inscrire... c'est qu'on n'est quand même pas très, très avantagé sur le secteur. Peut-être que le jour où il y aura la fibre, ça ira mieux.
Ah oui, ça je reconnais.
Mais à ce moment-là, on aura certainement besoin de formation pour aller plus loin dans nos démarches.
Un accompagnement.
Mais pour le moment, c'est même pas la peine. À la vitesse où ça va, c'est pas possible.
Oui,
quoi.
Je suis d'accord.
C'est beaucoup trop lent.
Ceci étant, souvent ce sont des questions, est-ce que ma retraite est tombée, est-ce que je l'ai, est-ce que mes allocations, j'ai mes allocations, etc., etc. Ce sont des choses qui sont, on peut les obtenir différemment sans obligatoirement harceler la plateforme téléphonique chez nous et qui encombre les problèmes, les vrais problèmes que l'on pourrait résoudre au téléphone.
C'est vrai que sur le site internet, vous avez raison, on peut se créer un espace sécurisé et c'est formidable parce que vous avez dessus toutes les informations, vous l'avez bien dit, sur les paiements, mais aussi vous pouvez faire des demandes. Par exemple, je perds ma carte de Système Vital, je fais ma demande en ligne, je mets ma photo en ligne, je peux transférer des documents, ça.
Tout le monde n'en est pas quand même capable de le faire déjà.
C'est ça.
Et surtout, vraiment, quand on n'a pas de débit, c'est vraiment un gros problème.
Bien sûr.
Et ceux qui sont sur Bordeaux, je crois, ne le réalisent pas tellement.
Et à la fois le problème du débit, et puis comme vous dites, il faut les former. Donc on a un bus numérique auquel on participe, qui pour les zones où ça passe, eh bien aider nos concitoyens à se servir. À partir du moment où on a compris la logique du site, ça va très vite. Mais il y a deux conditions, vous l'avez très bien dit, c'est il faut que ça marche, donc il faut du débit, et il faut avoir un minimum de formation. Les jeunes ont l'habitude, pour les moins jeunes, il faut un petit peu de formation, et encore, parfois c'est l'inverse. On a des jeunes retraités qui nous impressionnent par leur maniabilité de l'espace sécurisé.
On va peut-être revenir sur une petite pause musicale.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on. You want to go down? Come on, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down. Let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall
On parle toujours de la MSA dans Parlons Terroir ce soir.
Toujours la MSA et on abordait les problèmes de retraite, puisqu'on sait très bien que la retraite chez les agriculteurs elle est relativement faible. Mais beaucoup de difficultés déjà, c'est le passage à la retraite.
Oui, c'est le passage à la retraite. Alors, autant pour les salariés, c'est assez traditionnel, mais pour un exploitant, pour l'exploitant lui-même, c'est une vraie... Mais je souffre parce que c'est difficile pour lui. Parce
que, Madame Motte peut en parler.
Ah ben, le problème, c'est que les sociétés, on les a créées, on savait les créer. Mais après, quand il faut les démonter, c'est plus compliqué.
Et, oui.
Et bon, c'est... il faut du temps, quoi. Il faut se faire aider, et bon, mais il faut beaucoup de temps. Il faut s'y prendre assez tôt.
Parce que la problématique, c'est qu'effectivement, pour pouvoir toucher une retraite, il faut avoir arrêté son activité.
Oui.
Et dire arrêter son activité, ça veut dire effectivement, comme vous le dites très bien, céder son entreprise ou avoir... Voilà. Et cette cession, c'est laborieux parce qu'il y a plein de démarches à mener. Et aujourd'hui, on a des dossiers, des adhérents qui nous appellent parce qu'ils n'ont pas leur retraite. Et quand on revient vers eux, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la démarche auprès du notaire. Ils n'ont pas fait... Et donc, ce n'est pas un problème de retraite, mais c'est bien une problématique de cession de l'entreprise. Donc, on essaie de les accompagner comme on peut, mais bien souvent, la MSA n'est pas compétente en la matière, malheureusement.
Et souvent, ce qu'ils ignorent également, c'est que cadastralement, ils ont des parcelles. Alors qu'ils ont cessé leur activité, comme ils n'ont pas tenu
à jour
leur cadastre, ils ont des parcelles qui leur appartiennent, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas obtenir la retraite. Et ils ne comprennent pas. Donc, c'est un problème supplémentaire qui s'ajoute.
Et oui, donc ça, c'est pas évident, quoi.
C'est une vraie difficulté, parce que ce sont des données qu'on ne maîtrise pas automatiquement. Vous voyez, vous abordez le cadastre, effectivement, ils sont propriétaires de telle ou telle parcelle, ils l'ont peut-être oublié. Donc, on a cette démarche, nous, de chercher, d'essayer de les aider pour qu'ils trouvent ce qu'ils ont, entre guillemets, et ensuite qu'ils s'assurent que ces parcelles, elles soient léguées à la société qui va reprendre. Mais ça prend du temps, tout ça prend du temps. Et c'est vrai que quand on est dans une phase de retraite où il y a un peu de stress aussi, parce que ben, j'ai besoin d'avoir une rémunération, ce qui est normal. Hein. Je m'arrête.
C'est exactement comme le gars qui veut passer en bio. Hein. Il se dit, oulala, il va falloir que je vais perdre...
Il faut faire une étude bien avant de faire quoi que ce soit.
Et puis les dernières années, je crois qu'elles passent encore plus vite que les autres.
Oui.
On s'y retrouve alors qu'on le voyait encore loin. Et bon... C'est vraiment quelque chose qui s'anticipe. Il faut vraiment anticiper.
Oui.
Sachant que parfois, il y a des choix fiscaux qui vont à l'opposé des choix sociaux. C'est-à-dire que l'entreprise et son cabinet comptable voient la solution la plus économique d'un point de vue fiscal, ce qui n'est pas automatiquement la meilleure des choses d'un point de vue social. Donc il y a des choix à faire et c'est bien à l'exploitant de faire ce choix.
Et si vous voulez, il y a un autre souci qui est en train de se former, c'est les fermiers qui aujourd'hui abandonnent leur fermage au bailleur. Le bailleur se retrouve avec leur superficie, il n'y a pas de repreneur, donc ils ont une double peine, ils perdent le fermage et la retraite, puisqu'ils redeviennent exploitants. Ça, on rentre dans un système, dans un problème qu'on n'en avait pas jusqu'à présent.
Il faut qu'ils vendent.
Dû à l'économie, à vendre, il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de repreneur. Donc, c'est vite vu.
Oui.
Aujourd'hui, l'économie viticole, elle a un souci important. C'est que, voilà, il n'y a pas de reprise. Parce que, depuis une dizaine d'années, c'est compliqué. Et puis, les jeunes, ils ne veulent pas trop s'investir là-dedans. Si on a les jeunes agriculteurs que vous avez dit que vous alliez recevoir, il y a beaucoup d'installés. Enfin, il y a des installés, une cinquantaine, mais il y a beaucoup de marchés. Des viticulteurs, vous n'allez pas en avoir.
Non, bien sûr.
Il faut dire que les exploitations ont grossi très très vite aussi.
Oui, oui.
Donc, quand on veut vendre 10 hectares, bon, ça va, mais quand on en a 40 ou 50, c'est plus difficile.
C'est plus compliqué.
Surtout s'il n'y a pas de succession, c'est compliqué.
Les exploitations viticoles ont démarré il y a 30-40 ans. Elles ont démarré doucement, puis après elles ont développé un portefeuille, etc. Et après, ça devient quelque chose qui est relativement important.
Mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, l'année 2000. Où il fallait avoir des surfaces, planter de la vigne, être le plus gros possible. C'est à partir des années 95-2000, cette politique-là.
On va peut-être finir avec les élections, puisque ça a démarré il y a 2-3 jours, ça a démarré le 20, c'est jusqu'au 31. Alors, comment ça marche ?
Alors, c'est très simple, encore une fois. On a reçu son matériel de vote. Alors, en théorie, parce que... Tout le matériel de vote part d'une société unique en France pour tous les départements, vous imaginez la masse. Et encore aujourd'hui, on a des adhérents, notamment des salariés, qui n'ont pas reçu leur matériel de vote. Théoriquement, on nous annonce avant demain ou après-demain d'année à limite, mais tout le monde l'aura reçu, sachant que la date limite, c'est le 31 janvier. Une fois qu'on a reçu son matériel de vote, on a deux possibilités. La première, lorsqu'on a Internet et que ça passe, En trois clics, on peut voter. C'est extrêmement simple. On a un code.
Ça c'est, ça, c'est le Bordelais qui parle. Quand on est à la campagne, il faut pédaler quoi, pour arriver à avoir Internet.
Alors, je vous rassure, j'ai voté par Internet.
Ah, bon.
C'est... Alors, exceptionnellement,
à,
parce que...
À 3h du matin.
Oui, mais peu importe. J'ai dit, il faut que j'y arrive quand même.
C'est le président qui parle.
Oui, c'est le président qui parle. Et je ne suis pas un fervent de Internet. Mais j'y suis arrivé. Et ça demandait à peine 5 minutes. Mm. C'est très simple. Mm. Il suffit de faire, Monsieur Morin, je vote.
Je vote en ligne.
Je vote en ligne. .fr/2020.
Ouais,
fr, voilà. Et ensuite, on rentre son identifiant, on vote, on coche. Et ensuite, on rentre son code et on appuie sur la touche vote. Et c'est fini. Ça demande, quand je dis 5 minutes, c'est un maximum. Mm. Et on peut demander un justificatif de vote.
Si c'est trop compliqué pour certains, on a toujours la petite enveloppe de couleur dans laquelle on met son bulletin de vote, on renvoie ça dans une lettre T, ça arrive à la MSA avant le 31 janvier prochain, c'est déterminant. Et on ne va surtout pas le déposer à l'agence MSA du coin, parce que c'est très bien, c'est très proche, mais il faut que ça passe par la poste. C'est la poste qui gère tous les plis et qui va nous les apporter le 6 février prochain pour le dépouillement.
Alors, ça, alors, il y a quand même des enjeux importants, ces élections, parce qu'au regard du gouvernement, du ministère, etc., quand on dit la MSA, une représentative importante, avec des délégués, etc., eh bien, c'est au regard du taux de participation qu'on va pouvoir dire vous êtes vraiment représentatif ou pas, parce que les élections de l'année dernière des chambres de culture n'ont pas été si excellentes.
C'est le baromètre que l'on peut avoir et que les pouvoirs publics vont regarder. Et c'est notre légitimité derrière. Mmh. Donc si on voit que le monde agricole est attaché agricole, effectivement, on sera légitime. Mmh. D'où l'intérêt d'aller voter un maximum, un pourcentage important.
Et puis n'oublions pas, pour tous nos adhérents, qu'ils soient exploitants, employeurs ou salariés, c'est le seul régime où ils sont présents par le biais des élus. Et donc s'ils ne votent pas, s'ils ne saisissent pas cette capacité de s'exprimer finalement, eh bien les services de l'État vont prendre la mesure par le biais de nos taux de participation.
Oui, parce qu'après, ça ne sera plus, la base qui va pouvoir avoir son mot à dire, ce sera toujours par an.
Exactement. C'est ça. Quand vous regardez les régimes de sécurité sociale autres, eh bien, ce sont les syndicats nationaux et à la fois employeurs et salariés qui décident, qui sont l'équivalent de nos élus de terrain. Voilà, ce n'est pas du tout la même désignation. Ça part d'en haut et ça descend. Mm. Nous, on a cette démarche où c'est le terrain qui s'exprime, qui monte et qui, avec tout ce qu'il peut faire, eh bien, fait évoluer la MSA.
Voilà, écoutez, on a parlé pendant une heure de la mutation sociale école, pas que des cotisations finalement, parce qu'on parle souvent des cotisations, mais finalement à la MSA, il y a énormément de choses, un document unique, un guichet unique, pardon, un interlocuteur unique, et puis plein d'actions qui sont mises en place grâce à des élus qui sont près des gens, finalement des élus cantonaux, sachant que ces élus cantonaux seront moins nombreux, mais...
plus efficaces.
Mais plus efficaces, puis surtout que les anciens, on va les inclure quand même.
Oui. Ils sont plus motivés que jamais.
Donc il faut voter à tout prix, avant le 31, soit par vote électronique, soit par vote papier.
Une précision tout de même, c'est qu'on peut voter par papier et voter par électronique. C'est le vote électronique qui prendra le relais.
D'accord. Alors on va finir sur un groupe qui est connu, puisque c'est un groupe bordelais, c'est ça ?
C'est un groupe bordelais de jeunes femmes qui chantent, là encore, mais là on passe à trois voix. Eh bien trois voix, employeurs, exploitants et salariés, et qui au final n'en font plus qu'une.
C'est pas innocent, monsieur Morin, ce que vous dites.
Ah voilà, mais c'était calculé.
Merci.
La 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 la.
Voilà, bah écoutez, l'émission Parlons Terroir s'achève. La semaine prochaine, ça sera les jeunes agriculteurs avec Walton Bérénice qui nous parlera des Bazadès et des jeunes agriculteurs. Et puis on aura Thierry Planet qui nous parlera de Mondocloum. À la semaine prochaine.
Was
c'est comme ça qu'on...
She's always right there when I need her. I'm in love with the cocoa.